invité, une playlist, un mercredi soir sur deux, 20h-21h, Tour de Piste est sur Principe Actif.
Bonsoir à toutes et à tous. Avec L'Âge d'Or, son troisième album à paraître le 8 novembre, la poétesse folk Karen Lano va dévoiler 10 chansons construites comme des contes. Plus direct et plus intime encore que ses précédentes réalisations, ce nouvel opus puise aux racines des traditions anglo-saxonnes tout en abordant des problématiques d'aujourd'hui. Quelque part entre les ballades chantées de la vieille Angleterre et les grands espaces américains, cet album doux et envoûtant fait du bien dans un monde plutôt tourmenté. Il m'offre aussi l'occasion de retrouver Karen Lano et son compagnon d'armes, le compositeur et arrangeur Olivier Le Gall pour le direct de ce soir. Ils nous joueront en milieu d'émission 3 titres de ce nouvel album dans une version acoustique. Bonsoir Karen, Olivier, merci à tous les deux d'être à nouveau sur le plateau de l'émission Tour de Piste.
Bonsoir.
Alors L'Âge d'Or est ton troisième album, Karen, il fait suite à Muse, sorti en 2020. Il a commencé à germer quand et comment ?
Alors il a commencé à germer un petit peu avant le confinement. Vraiment à la suite de mon installation dans une petite maison perdue au milieu de la nature que ces chansons sont arrivées. Il y avait beaucoup de temps, beaucoup d'espace et puis bizarrement beaucoup de joie aussi parce que c'était la première fois que je vivais dans une maison et que j'étais dans un contact aussi proche de la nature. Et voilà, les chansons sont arrivées petit à petit sous différentes formes, que ce soit a cappella d'abord, et puis aussi en collaboration avec Olivier. Donc on peut dire que c'est un album de la quiétude.
C'est une question que je vais poser à Karen et Olivier. Alors, vous composez en même temps que vous vivez, c'est-à-dire dans le mouvement. Qu'est-ce que vous avez vécu tous les deux pendant la période de gestation de cet album et qui a eu un impact sur le disque ?
Enfin, déjà, rien que ça, le contexte, effectivement, de ce qui se passait à cette époque et le fait d'avoir envie profondément de douceur, de tendresse et d'exprimer quelque chose de réconfortant pour les gens. C'est-à-dire que pour moi, la musique, c'est vraiment c'est un acte de joie, en fait. Et je compose vraiment quand je me sens totalement détendue. Quand je suis malheureuse, en fait, je ne fais pas partie des gens qui sont très prolifiques quand ils sont malheureux. J'ai vraiment besoin d'être dans un... justement d'encaisser un petit peu et de laisser mûrir tout ça. Et quand je me retrouve vraiment dans un état de sérénité, c'est là que ça vient parce que pour moi, c'est vraiment un geste de joie. Donc je dirais déjà que le climat a beaucoup joué en fait aussi dans l'envie de faire cet album. Et puis l'isolement de notre maison qui fait que je me suis retrouvée vraiment dans des questionnements très, très intimes, dans une envie de communiquer des choses beaucoup plus personnelles et de parler de façon plus directe.
Ce qu'on a traversé, je pense, sur cet album, c'est vraiment le plaisir. Disons que c'est le deuxième album qu'on fait ensemble. Deuxième et demi, il y a eu un EP entre les deux. Mais c'est le deuxième album qu'on fait ensemble. Et je pense qu'on se connaissait encore mieux sur la manière dont on composait et on s'est retrouvés comme ça dans cette maison au milieu de la forêt avec plein d'instruments, un petit glock, des petites percussions comme ça et on a construit ça ensemble et en fait traverser ça, ça a été super quoi dans une période qui était en effet pas très simple et pas très joyeuse.
Et alors, on va ouvrir la programmation musicale avec le thème principal de la musique du film Interstellar. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver dans les musiques de film et dans cette musique de film qui pourrait faire écho avec L'Âge d'Or ? Karen, je sais que tu es une grande fan de musique de film.
Oui.
Tu nous en avais fait part sur le plateau de l'émission il y a 2 ans.
Oui, c'est vrai. C'est probablement, je pense, l'association aussi de la musique avec l'image. C'est vraiment... je trouve tout un art de pouvoir composer pour les films. Je trouve que c'est vraiment un exercice extraordinaire. Et quand il y a cette espèce d'osmose parfaite entre une histoire, des plans, des visages et une musique qui emporte tout ça, cette musique-là, vraiment, quand je l'ai entendue pour la première fois, elle m'a touchée profondément. Et j'y reviens régulièrement, en fait, à cette musique, à ce thème, c'est quelque chose qui est vraiment une petite madeleine, qui est devenue une petite madeleine. J'adore cette musique.
thème principal de la musique du film Interstellar. C'était aussi le premier choix de mon invité Karen Lano, qui est en compagnie d'Olivier Le Gall, son musicien, pour l'émission de ce soir. On dit que le cap d'un troisième album, c'est important, que c'est un virage dans le parcours d'un artiste, d'un groupe. Est-ce que vous partagez cet avis ?
Non. Honnêtement, je ne sais pas si, dans quelle mesure c'est plus important ou moins important. Un premier album, c'est quand même quelque chose de fondamental. Et puis, bah, le deuxième, c'est un peu le rebond. Le troisième, je ne sais pas exactement ce que ça peut représenter. Je crois que, pour moi, à chaque fois, chaque disque est un premier album. Il y a une espèce d'impulsion. J'essaye de cultiver au maximum une fraîcheur, voilà, pour pouvoir aborder ça toujours comme une nouvelle aventure. Donc, c'est toujours de la nouveauté. Donc, je sais pas. Je dirais que je le ressens pas comme ça. En tout cas, c'est une forme de renaissance, peut-être. Oui, on pourrait qualifier ça comme ça. Et aussi de réinterprétation, je pense, du monde et puis de la vie qu'on est en train de vivre, du temps qui passe, de plein de choses. Donc c'est à chaque fois, je le prends comme à la fois un retour à zéro et en même temps une espèce de reset de tout ce qui s'est passé avec les souvenirs, la mélancolie qui peut aussi émerger. Et puis la promesse du futur.
Ce disque, vous avez voulu le nourrir de quelles influences musicales ?
Karen et moi, on a clairement une culture anglo-saxonne de la musique. On a grandi au son des groupes de grunge, de Jimi Hendrix, de la soul, de metal, de Buckley. De Kate Bush. Donc, tu peux pas contrôler ce qui sort de toi, quoi.
Oui, c'est ça. C'est que chaque artiste est une synthèse inédite de plein d'influences digérées.
C'est ça.
Oui, mais peut-être que ça. Je t'interromps deux secondes parce que je me dis que peut-être que ce qui fait qu'on a quand même un cheminement commun par rapport à ça, c'est que la musique a une place importante. La mélodie, la musique, c'est quand même assez caractéristique de la musique anglo-saxonne. C'est que vraiment, la musique a une place d'expressivité. Les chœurs ont une place d'expressivité aussi. Des ou, des a, parfois, ça raconte autant de choses que des mots. Donc peut-être, je te laisse continuer aussi par rapport à ça.
Moi, j'ai souvent écouté de la musique sans vraiment écouter les paroles, quand j'étais plus jeune. Et j'avais l'impression de comprendre quand même quelque chose et que ça me transmettait quelque chose. J'avais pas besoin de comprendre les paroles pour être ému. Enfin, je suis très, très ému par une musique. Et là, on va d'ailleurs écouter...
On a écouté une musique d'ailleurs instrumentale tout à l'heure et c'était de l'émotion pure.
Ouais, c'est...
Et alors, pour les textes, qu'est-ce qui a nourri l'écriture des textes de ce disque ?
Alors, pour les textes, j'ai une espèce de petit cahier où je mets plein de choses, des idées, des phrases, des bouts, des mots. Et souvent, par l'impulsion de la mélodie, en général, ce qui me vient en premier, c'est quand même la mélodie. Ça vient par le chant. Donc là, j'ai beaucoup travaillé sur la cappella, laisser aussi la place à la voix et trouver la bonne couleur de voix. Et du coup, la bonne mélodie qui va avec pour qu'elle se développe vraiment dans cette couleur. Et après, j'y ai posé des mots. Et les textes ont vraiment été nourris de l'intime. Pour moi, c'est un disque qui est... Enfin, L'âge d'or, c'est quand même vraiment un disque qui est beaucoup plus personnel, où j'évoque des choses qui sont de l'ordre de l'intime, de mon ressenti, de façon beaucoup plus explicite, je pense, que sur les disques précédents.
Alors, vous l'avez enregistré où et en combien de temps, ce disque, cet album, L'âge d'or ?
Bien, avec Karen, on a commencé à vraiment faire des maquettes chez nous en 2022, je pense. Et ensuite, une fois qu'on avait toutes ces maquettes, on en avait fait pas mal, une 20-25 morceaux, je pense. On a monté une équipe et on a cherché des lieux. On a enregistré, pour être assez explicite, on a enregistré dans plusieurs lieux. On a enregistré dans un studio à côté d'Honfleur qui s'appelle Opus Grestin, qui est un très très beau studio. On était là pendant une semaine avec batteur, bassiste, moi à la guitare, Karen au chant. Ensuite, on a enregistré des violons et des cordes, des violons et des cuivres, pardon, à Broglie, à côté de Bernay, dans un petit studio qui s'appelle le Studio de la Vie Mondière. On passe le bonjour. Et puis, on a enregistré aussi au Conservatoire
de Gennevilliers.
Et tout ça, ça a été fait avec notre super ingé son qui s'appelle Jean-Baptiste Brune, avec qui on travaille depuis trois disques maintenant.
Et alors, qu'est-ce que vous avez souhaité capter avec ce disque ?
Je dirais quelque chose, comme au risque de me répéter, mais quelque chose d'assez intime. Moi qui étais quand même reliée à l'expérience que je vivais de, d'avoir déménagé, d'avoir trouvé un ancrage ailleurs. Donc d'avoir un peu quitté mon identité de citadine et de faire connaissance vraiment avec un environnement de nature parce que on n'avait pas de voisins, on avait cette petite maison au milieu de nulle part avec une forêt juste à côté. Et forcément, quand on se retrouve dans un lieu comme ça, on se retrouve aussi face à soi-même. Il y a plein de choses qui remontent. Et c'était pour moi une source d'inspiration. Donc c'était communiquer quelque chose d'intime parce que je me dis... Enfin, je sais que plus c'est intime et plus ça peut parler aussi aux gens parce qu'on traverse finalement toutes et tous des choses similaires. Et parler de ses émotions, parler de son ressenti, de son vécu, c'est forcément un partage qui peut toucher, je pense, le cœur des gens.
Il y a quelque chose d'universel là-dedans. Quand on parle du plus profond de soi, on s'adresse un peu à tous, quoi.
C'est vrai, c'est un thème que j'adore d'ailleurs, l'universel, je trouve ça très beau.
Ça ne m'étonne pas. Alors vous croisez vos univers avec Olivier. Quelle est la part de chacun dans ce projet ? Tu en as déjà un peu parlé, Olivier ?
Enfin, il y a deux manières de faire. Soit elle me propose ses mélodies et ses textes et dessus on construit une musique ensemble. Moi je prends la guitare et puis sur la mélodie que Karen a créée, ben on va rajouter des accords, habiller des accords, essayer voilà. Et il y a aussi sur certains morceaux moi qui propose des musiques à Karen, un couplet, un refrain, quelque chose d'assez général, et puis Karen écrit quelque chose dessus et puis elle me dit voilà, est-ce que tu peux changer un peu cette structure, rajouter ça, et voilà. Et ensuite on arrange ensemble, on a tout arrangé le disque ensemble, on l'a réalisé ensemble.
Et je propose qu'on écoute un deuxième titre de votre playlist, c'est l'artiste La Chica, franco-vénézuélienne. Le titre s'appelle Solar. Est-ce que l'un de vous deux veut dire deux, trois petits mots sur cet artiste ?
Bah moi, parce que c'est un gros coup de cœur récent. Je l'ai vu en concert à l'Éclat, à Ponto de Mer, et j'ai trouvé ça magique, vraiment. C'est une artiste qui a énormément de charisme et qui a beaucoup de puissance et en même temps... une forme de vulnérabilité que j'adore. Donc voilà, c'est un peu mon petit coup de cœur, enfin mon gros coup de cœur de ces derniers temps.
Dices que soy ángel. Siento veneno. Piensas que tengo alas. Cuando mi hogar es el infierno. Dices que ves mariposas en la luz de mis ojos. Con un solo zarpazo te arruño el alma. Dices que me quieres a tu lado. Cuando yo ya me fui sola. This is
Et c'était l'artiste franco-vénézuélienne La Chica, c'est très bien, c'est très, ça envoie. Le morceau s'appelle Sola, c'est une sorte d'une forme de d'hybride, de pop un peu arty, comme on dit. C'est une artiste féministe aux influences chamaniques. J'en profite pour poser cette question. Quelle place prend la quête de spiritualité dans votre démarche artistique? J'ai des questions un peu vaches ce soir.
c'est très, très philosophique, c'est intéressant aussi. La spiritualité, bon, je dirais que moi je la relie beaucoup à un des thèmes quand même majeurs de l'âge d'or qui est de cultiver une forme de joie et de cultiver le lien avec l'enfant intérieur aussi, même si c'est une expression qui peut être un peu galvaudée, mais je trouve que c'est quand même du boulot de cultiver la joie au quotidien.
C'est-à-dire oui, c'est de plus en plus difficile,
j'ai l'impression. On est vite tenté d'être happé par une mélancolie constante. Et donc faire en sorte que les moments du quotidien, que de pouvoir créer les conditions pour facilement parfois s'amuser de quelque chose, rire, et puis même dans les moments les plus dramatiques, hein, mais ça c'est quelque chose que mes parents m'ont transmis et je les en remercie, c'est qu'ils ont traversé des épreuves, mais ils avaient toujours parfois ce recul pour avoir un petit trait d'humour et puis en rire et voilà, faire en sorte que la légèreté s'installe aussi. Donc ma spiritualité à moi, je la placerais là, avec cette forme d'émerveillement aussi qu'ont les enfants devant tout, de continuer à cultiver ça, et puis voilà ce que je dirais par rapport à ça.
Et en tout cas, pour finir, l'optimisme et la joie, au risque de me répéter, c'est devenu un acte de résistance aujourd'hui. On est tellement sollicité par le pessimisme et par tout un tas de nouvelles.
C'est très beau de dire ça, oui.
Plus graves les unes que les autres. Alors, il y a des invités sur ce disque, notamment Émilie Loiseau et Brisa Rocher. C'est arrivé comment, cette collaboration?
Brisa Rocher, moi, je l'ai rencontrée sur un projet qu'on a en commun. On accompagne un chanteur photographe qui s'appelle Nicolas Coman, qui a un super projet d'ailleurs. Et voilà, je l'ai rencontrée, on s'entend très bien. Et quand il s'agit de chercher des gens qu'on voulait inviter sur le disque, on a pensé à elle. Et voilà. Et pour Émilie Loiseau, Karen va en parler.
Bah, Émilie, moi, j'étais très fan de sa musique. J'ai écouté ses albums. Et en fait, il se trouve que Jean-Baptiste Brune a beaucoup travaillé avec elle. Et donc, il la connaissait. Donc voilà, quand j'ai émis l'idée de pouvoir faire un duo avec Émilie, il m'a mise en contact avec elle. J'avais vraiment l'idée que c'était sur Pas Assez. J'entendais sa voix et je me disais, en plus avec ce qu'elle représente, c'est-à-dire que c'est une artiste quand même assez engagée qui, comme ça, assez frontale. Et j'aime bien ce truc-là. Elle a une forme de puissance aussi, pareil. Je reviens encore au terme de puissance, comme pour La Chica. De complètement assumer ce qu'elle est et d'être très intègre, de ne pas lâcher sur quoi que ce soit. Et voilà, je lui ai envoyé la chanson Pas Assez et elle l'a écoutée. Elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup et qu'elle serait ravie de le faire. Donc c'était pour moi une grande joie, hein, pour répéter encore ce mot. Quand on a des aînés comme ça, des gens qui sont beaucoup plus avancés que vous et qu'on admire, qui valident votre travail, oui, c'est sûr que ça instaure la confiance.
Alors, je propose qu'on écoute La Souterraine, extrait d'Émilie Loiseau, extrait de son dernier album.
Souterraine, elle allait danser chaque soir, Hélène. Dans la voie souterraine, son âme la traitait comme une reine. Et dans le noir, on croyait la voir sereine. Au-dessus de l'arène, juste au-dessus de leur vie souterraine, c'est le feu dans la plaine, toutes les bêtes se bousculent, se déchaînent.
Et dans la ville déserte, pas une sirène. Souterraine, au-dessus de la reine, dans la lumière, son homme n'était pas le même. C'était comme un incendie qui brûla la vie d'Hélène. Il semble que rien ne nous arrête. Souterraine, on danse encore au milieu de l'arène. C'est le feu dans la plaine, mais dans nos têtes on éteint les sirènes. C'est le feu qui l'emporte, comme sur la vie d'Hélène.
Très bel album, La Souterraine, sorti cette année. C'était le morceau qui porte son nom. La Souterraine, c'était Émilie Loiseau, un album que mes invités et moi-même, nous vous recommandons tout spécialement. Et donc, Émilie Loiseau a prêté sa voix pour le troisième album de Karen Lano. Pour Mus, c'était le duo Facteur Chevaux qui avait travaillé avec vous. Pour L'Âge d'Or, c'est Sylvie Haro du groupe Brigitte. Comment s'est fait choix et qu'est-ce que Sylvie a apporté au projet?
Alors, Sylvie Haro, en fait, je l'ai rencontrée par l'intermédiaire de mon amie photographe Nayad Plante, qui a fait la pochette de l'album. Et on s'est mise à discuter comme ça un peu de musique. Et en fait, Sylvie est venue me voir. Je faisais la première partie de Tom Poisson au Café de la Danse, fin mars. Et à la fin, voilà, on a discuté. C'est vrai qu'on s'entendait bien, que voilà, il y avait quelque chose quand même qui passait. Elle était présente d'ailleurs aux séances photo. Elle m'a conseillé pour les poses, pour les habits. Elle était déjà un peu voilà dans la boucle. J'ai envie de dire que c'est un peu une marraine qui accompagne l'âge d'or aussi, puisque après, on s'est mis à travailler vraiment sur la musique live pour préparer notamment mon solo, puisque voilà, il y a des concerts que je vais faire vraiment seule sur scène. Et bon, ça se construit quand même avec exigence. Un solo, ça se fait pas comme ça. Et j'avais quand même vraiment besoin de pouvoir gagner en confiance et avoir le regard justement de quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, ce qui est le cas de Sylvie, parce qu'avec avec Brigitte, elles ont beaucoup tourné.
Elles ont tout fait.
Elles ont tout fait.
C'était un succès assez fulgurant pour elles aussi.
Oui, 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 bien sûr. Et c'était énorme. Hein. Donc, et en plus, c'était un groupe que j'aimais beaucoup, que j'ai vu plusieurs fois, que ce soit à la télé, j'ai écouté les disques. Et donc, c'était quand même une référence pour moi aussi, parce que je trouve qu'elles ont fait avancer les choses aussi pour les femmes dans la musique. Elles ont représenté quelque chose à un moment donné. Et toujours, d'ailleurs, maintenant, individuellement, l'une et l'autre. Et donc, voilà, on a travaillé et on continue de travailler sur le solo et on parle beaucoup de musique. C'est vraiment une superbe musicienne et j'adore échanger avec elle et parler vraiment des morceaux, des chansons, de la façon dont ça s'articule, dont je les chante et ce que je peux jouer dessus et faire. Et voilà, c'est effectivement une relation... un lien assez précieux pour moi, Sylvie.
Tu joues en solo sur certaines dates, vous jouez en général en duo. Ça représente quels avantages de jouer à deux ou à un par rapport à des formules en groupe, à trois ou quatre?
Alors, en fait, là, sur l'âge d'or, il y a deux formules. Deux formules, on dirait un peu le resto du... Alors, je vous propose deux formules. La formule solo, donc là où je suis toute seule, voilà, très, très proche, vraiment intime avec les gens. Il y a de la place pour la voix, pour l'expressivité. Et il y a aussi un peu d'énergie parce que il y a quelques boucles de temps en temps qui me permettent de danser, qui me permettent d'avoir des moments un peu plus rythmés que juste en piano-voix. Et puis, il y a une formule vraiment groupe où là, on est quatre. Donc là, ce soir, ce qu'on va te faire, le fait d'être en duo tous les deux, c'est inédit.
C'est pour toi.
C'est une émission d'exclusivité. Voilà. Et donc, dans le groupe, il y a évidemment Olivier qui est à la guitare, il y a Blandine Champion qui est à la basse et Gaëtan Demoen qui est à la batterie et moi-même j'ai le clavier, on a quelques séquences aussi pour de temps en temps apporter les couleurs du disque supplémentaires. Donc voilà, c'est deux formules bien distinctes. Ce que ça apporte, c'est de pouvoir jouer aussi dans des contextes différents.
Oui, on en parlera ça en fin d'émission en annonçant vos dates de tournée.
Oui. Oui, tout à fait.
Je vous laisse vous installer pour nous jouer trois titres en live et en acoustique, tous issus de votre album à venir, L'Âge d'or. En attendant, on fait une brève pause musicale avec un titre de l'anglais Shirley Collins qui s'appelle Cambridge's Higher May on Carol. Il est extrait de l'album Fountain of Snow. On retrouve Karen et Olivier pour un petit live dans deux petites minutes.
Arise, you pretty fair maids, and take your May bush in. For if that is gone before tomorrow morn, you would say we had brought you none. Oh, the hedges and fields are growing so green as grass can be. Our heavenly Father watereth them with his heavenly dew so sweet. I have got a little purse in my pocket that's tied with a silken string, and all that it lacks is a little of your gold to line it well within. Now the clock strikes one, it's time we were gone, we can no longer stay. So please to remember our money, money box, and God send you a joyful May.
C'était Shirley Collins avec le titre Cambridge's Higher May Carol. On retrouve Karen et Olivier Gall, le temps de trois titres, le temps d'un rêve, seul dans la danse, et Passassé en direct et en acoustique dans l'émission Tour de Piste.
Ici on a été heureux, on a regardé passer les oiseaux migrateurs, les nuées qui dansaient dans le ciel. Ici, on s'est nourri des reflets sur la mer, émerveillé par tant de pureté, unis dans un silence sublime. Le temps d'un rêve. déjà révolu. Ici, on a touché l'écorce des arbres, les bras levés pour atteindre l'immense, le corps enivré d'un souffle vibrant. Ici, on a ri enlacé tendrement, on a chanté jusqu'à l'aurore, saluer le mystère de se sentir vivant. Le temps d'un rêve, le temps d'un rêve, à peine.
Dans la danse, oh.
Karen Lano au chant et Olivier Le Gall à la guitare. C'était trois titres en acoustique et en live en direct dans l'émission Tour de Piste, extrait d'un album à paraître le 8 novembre de Karen Lano qui s'appelle L'âge d'or. Merci à tous les deux.
Merci à toi.
Alors sur la pochette de l'album, on parlait tout à l'heure de Nayat Plante qui a signé la pochette de l'album. On te voit vêtue de blanc sur un fond assez sombre. Qu'est-ce qu'elle dit du disque, cette pochette ?
Alors, on a fait toute une série de photos avec Nayad parce qu'elle a notamment fait elle-même toute une série qui s'appelle Earthkeepers, qui a été l'objet d'une exposition, de plusieurs expositions. Et donc, c'était aussi, il y avait un lien avec la nature, avec comme ça des êtres qui étaient mis en scène dans la nature, dans la forêt. Et on a commencé par aller dans cette direction. Et puis, il y a plein de photos qui sont ressorties. Donc, il y avait aussi cette couronne de fleurs. Il y avait cette tunique. Alors, je peux le dire quand même, c'est une autre petite exclue pour toi ce soir. C'est la tunique de Sylvie, justement, Sylvie Warreau.
Je crois l'avoir lu. Qui me l'a prêtée.
Voilà, sur qu'elle portait dans le clip La vengeance d'une louve, que j'adore. Enfin, c'est un morceau que j'adore. Donc, j'étais vraiment heureuse de pouvoir la porter. Parce qu'en plus, je trouve qu'elle est là, ce portrait, en fait, quand j'ai regardé la série de photos avec Olivier, on s'est dit c'est marrant, ce portrait il est un peu intemporel, il y a un côté cinématographique, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est une figurante sur un film des années 50 à qui on aurait dit bah, tiens, regarde-moi deux secondes et hop on prend la photo, ou si justement c'est quelque chose de très contemporain qui est relié à la nature avec cette couronne de fleurs qui en même temps évoque quelque chose de très folklorique, mais la tunique ne l'est pas, et il y a comme ça un côté intemporel et élégant que j'aime beaucoup dans la pose. Et puis, j'aime bien mon sourire. Je le trouve relâché et détendu, lumineux. Et voilà, je trouvais que c'était vraiment une très belle photo pour illustrer l'âge d'or.
Et alors justement, le titre « L'âge d'or » renvoie au temps de l'insouciance. Et pourtant, on sent des tensions inquiètes sur cet album. Pourquoi avoir fait ce choix de titre ? Tu as déjà un petit peu répondu à cette question-là avec la photo.
Pourquoi ce titre ? Alors, l'âge d'or, en fait, je parlais tout à l'heure des thématiques qui traversent le disque. Il y a effectivement une thématique qui est reliée à l'enfance. Donc, comme j'évoquais, le fait de pouvoir garder un lien avec l'enfant intérieur et cultiver la joie. Il y a une thématique qui est vraiment reliée aux femmes, à mon ressenti de femme et du monde et de ses codes. Et puis, une thématique qui est reliée à la nature. Donc l'émerveillement pardon, que ça peut susciter quand on s'attarde à regarder, à observer ce qui se passe dans la nature, jusqu'au tout, tout petit. Et en fait, ces trois thématiques-là, elles sont traversées de la question de l'âge d'or, c'est-à-dire que l'âge d'or, c'est une période qui évoque un idéal, et qui évoque un temps fort. Et donc toutes les trois, elles pourraient s'illustrer dans un âge d'or. On peut se demander effectivement si l'enfance, c'est un âge d'or. Pour certaines personnes, oui, pour d'autres, non. Et en même temps, il y a cette joie dont je parlais. Les enfants naissent par nature et ils sont curieux, émerveillés de toutes les découvertes. Et puis en même temps, il y a l'âge d'or de la femme. On peut se questionner sur ce que c'est que l'âge d'or de la femme. Il y a beaucoup de pression quand même pour les femmes sur la question de l'âge et de l'apparence et du fait de, entre guillemets, bien se maintenir. Voilà, avec les années qui passent. Et puis la question de l'âge d'or de la nature, c'est-à-dire voilà, se dire est-ce qu'on a envie à nouveau d'offrir un âge d'or à cette nature ou est-ce que son âge d'or est passé ? Voilà, pour moi, ça relie un peu tout ça. Je trouvais que c'était un beau nom d'album en plus, voilà, de l'appeler comme ça.
Et moi d'un seul coup t'aimer, je rêve de toi.
C'était l'OVNI de la pop française. OVNI de la pop française, c'était Roche de Sébastien Tellier. C'était un des choix de mes invités. Il est extrait donc de Sexuality. Très bon disque. Et je crois, Olivier, que sur La Rue de Tournelle, tu voulais rajouter un petit quelque chose. Il te fait penser sur ce titre de Sébastien Tellier.
Avec Karen, on écoute plein de choses ensemble, plein de choses de notre côté. Et Sébastien Tellier, on a beaucoup écouté ça. Et je crois que ce qu'on aime bien, c'est un peu... le côté, c'est assez dreamy finalement, c'est le mot qui sort là, je sais pas pourquoi, mais...
c'est pas mal.
Et en l'écoutant, je me suis dit, en fait, c'est rigolo parce qu'il y a un peu cette vibe-là dans un des titres qu'on a fait sur L'Âge d'Or qui s'appelle L'île au bout du monde, t'en as parlé un petit peu. Il y a un peu cette vibe-là, les synthés, les trucs, le morceau qui a pas vraiment de début, pas vraiment de fin, mais comme ça, qui monte, et puis il raconte un truc par son ambiance. Voilà, j'ai juste fait ce rapprochement.
Et alors, votre démarche me fait penser à une autre Karen. C'est Karen Dalton, chanteuse que vous connaissez peut-être. Une chanteuse folk des années 60 qui ne s'accommodait guère du rythme trépidant des grandes villes ni des artifices de l'industrie musicale. Pouvait-on lire dans le livre de Pierre Le Marchand à son sujet ? Ça offre quels avantages d'être à la marge ?
Ça veut dire que tu n'as pas besoin de répondre aux injonctions des autres, peut-être ?
Est-ce que c'est moins de pression ?
Non, mais je pense à ça parce que avec Karen, on a fondé notre label de musique on produit la musique et puis on a une petite équipe autour de nous, quoi. Mais notamment au moment du Covid, quand on a sorti Muse, si on avait été sur un label, on n'aurait jamais pu sortir ce disque-là parce que c'était un disque particulier enregistré dans une église avec des morceaux de 7 minutes, tu vois. C'est peut-être ça, la marge, ça permet de faire un peu ce que tu veux, quoi.
Habituel.
Je dirais ça.
Est-ce que vous avez écouté beaucoup de musique pendant l'enregistrement du disque et est-ce que vous revenez de manière rétrospective sur des albums qui sont sortis à 50 ans, 60 ans, 40 ans ?
Tout à l'heure, on a écouté Interstellar et quand on a fait la liste avec Karen, on a discuté des titres qui ont façonné ce disque-là et on a parlé de Philip Glass. On est tous les deux très fans de Philip Glass.
Ouais,
d'ailleurs, on a vu Einstein on the Beach il y a quelques temps là, 3h30 d'opéra, c'est fantastique, quoi. Mm. Et donc oui, je pense que typiquement Philip Glass, ça a nourri cet album d'une manière ou d'une autre. Tu l'entends ou tu l'entends pas, mais ça l'a nourri. Après Bon Iver, ça l'a nourri. Aurora, Émilie Loiseau, je pense que quand t'es musicien, t'écoutes beaucoup de musique. Peut-être pas tout le temps, mais t'as toujours ce lien-là où tu vas aller chercher des nouvelles choses.
Et alors, on a une scène, on va dire, en Normandie qui se porte très bien en ce moment. On en a parlé un peu hors antenne. Est-ce qu'il y a des artistes avec lesquels vous aimeriez collaborer à l'avenir ?
Appelez-moi François.
On en parlera de ça.
Pour pas faire un petit peu de pub pour les artistes concernés.
Qui était au 106 hier soir, d'ailleurs.
Non, c'est vrai que c'est c'est quand même un chouette projet. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc voilà, il y a un des membres qui est ici sur
Olivier,
le plateau.
Dans un projet très différent. On va refaire une pause musicale avec Aurora. Lequel de vous deux a choisi ce titre ?
Alors c'est moi.
C'est toi, Karen.
Oui, c'est
pas.
Moi parce que je connais pas très très bien la musique d'Aurora. Je vois beaucoup de. En fait, je suis abonnée à son compte Instagram et donc je vois passer des extraits live et j'ai vu notamment passer un extrait comme ça d'une chanson qu'elle a fait à la radio accompagnée par Wax. Et en duo avec Pomme, et donc de cette chanson qui s'appelle Everything Matters, si je me souviens bien.
C'est ça.
Et je trouve qu'elle dégage quelque chose de vraiment intéressant, cette fille. Elle a une voix comme ça qui est très, très aérienne et en même temps, elle revendique beaucoup de choses. Elle est assez militante et j'aime bien, en fait, je crois que j'aime bien les contrastes, en fait. Il y a quelque chose qui me parle dans ça. Et donc, le duo est vraiment magnifique. Je trouve que les harmonies sont sublimes et que cette chanson est vraiment très belle. La mélodie est très belle.
Sleeping in the seat next to me like a baby. You twist and you turn. You are traveling fast like a bird in a dream. Look at it go. Look at it dance over the sky like a rocket. A love machine, a cinematic dream. So pure and it hurts. lost in the speed, 'cause everything matters to me. To me, you're a part of the dawn, where the light comes from the dark. You're a part.
Et Pomme avec le titre Everything Matters, c'était un des choix de mes invités de ce soir, Karen Lano et Olivier Logal. Vous allez défendre ce disque donc aussi bien dans les petites salles que dans des salles plus grandes comme le Café de la Danse qui a une capacité d'accueil de 500 spectateurs.
Oui.
Vous avez une préférence entre les toutes petites salles dans lesquelles vous allez jouer, notamment en Normandie, avec des jauges comme ça à 500-600?
Non, pas de préférence, si ce n'est que ce qui est bien, justement, je pense que c'est de pouvoir faire des choses variées en termes de propositions. Donc oui, d'avoir des salles plus petites où on va avoir un set solo, où on est vraiment dans quelque chose de très confidentiel, d'intime, et c'est très agréable. Et d'avoir des scènes un peu plus grandes, un peu plus imposantes, effectivement, comme le Café de la Danse, le 17 janvier, qui sera... Bah, voilà, le spectacle avec des invités. Il y aura la première partie, c'est un duo fabuleux qui s'appelle La Reine Garçon. Et donc ça, c'est un peu la fête aussi. Il y a, moi, j'aime tout, en fait. Du moment que je rencontre le public, je suis contente, moi.
Et alors, Olivier, tu as un de tes projets parallèles, c'est Appelez-moi François. Vous avez joué hier soir au 106, si je ne m'abuse. Est-ce que tu peux nous parler très brièvement de ce projet, de nous annoncer des dates, s'il y en a?
Oui.
En marge du projet avec Karen.
Le projet s'appelle Appelez-moi François. C'est de la pop qu'on appelle Low Feel Good, qu'on fait avec des vieilles boîtes à rythme et des vieux claviers orgue italiens des années 70-80. C'est inspiré, je dirais, d'une pop 60s, mais en français, avec des textes de Romain Lefrançois, mon collègue, qu'on arrange ensuite ensemble. On a sorti un premier EP il y a 2 ans, on sort le prochain là bientôt, et en termes de concert, que dire, on est à Orléans le 26 et on a une soirée label le 26 octobre, et on a une soirée label à Paris avec Karen Lano et Appelez-moi François. On va partager la scène, ça va être très chouette, dans un lieu qui s'appelle le TLM dans le 19e. C'est le 13 novembre, j'ai pas donné la date.
Et alors on peut annoncer les dates, hein, donc pour Karen Lano.
Oui.
Il y a 8-9 dates, je pense, en novembre, dont le 13 novembre à Paris, dont le... Attends, qu'est-ce qu'on a dans le coin ? Le 16 à la Barre en Ouche.
Ouais, pas très loin non plus.
Le 23 à Rabaudange dans le 14. Et après,
au Carabo,
on... ouais. Et après, on a le 17 janvier au Café de la Danse et le 31 janvier à Bolbec.
À Bolbec, oui. Il y a d'autres, d'autres dates aussi qui sont, bah, qui sont pas encore en ligne, mais qui sont en préparation à partir de février. Donc voilà, on annoncera tout ça petit à petit.
On se quitte avec le titre « L'âge d'or » qui a donné son nom à votre dernier album, qui sort donc le 8 novembre.
C'est ça.
Un grand merci d'avoir été mes invités ce soir. C'est toujours un plaisir de vous avoir dans l'émission.
Merci.
Tour de
merci
Piste.
À toi.
Bonne soirée à tous et à toutes. On se retrouve dans 15 jours à 20h. Au revoir.
Il est si éternel, mon bel amour. Toi, mon cœur, bleu sauvage. Faisant preuve de bien du courage, tu as bu le feu de tes étincelles.